Radio Okapi.
Le journal parlé, c'est une présentation de notre sœur Noëlla Luzitu Kabambi.
Situation toujours confuse dans la région de Calais et concernée par les dernières inondations. Les survivants hésitent à rejoindre le site désigné par les autorités. Les volontaires y arrivent avec de l'assistance, mais sa distribution pose problème, notamment à Niamoukoubi. Le comité provincial de gestion de la catastrophe dit être débordé et puis un bateau avec 8 tonnes d'assistance a aussi quitté Bukavu pour Calais ce dimanche matin dans le cadre de l'apostolat du groupe Yakesho Yajuwamungu. 45 bandits présumés arrêtés par les forces de sécurité ont été présentés à l'autorité de la ville de Beni hier. Le chargé de communication de la police a indiqué que tous seront déférés devant les juges naturels. Étienne Kalimbiro-Baluira est l'invité de ce journal. Il est le superviseur terrain du projet de prévention et réponse à l'exploitation et les abus ainsi que le harcèlement sexuel. Ce projet qui sera mis en œuvre CPO dans 18 zones de santé du Sud Kivu et 2 zones de santé du Maniema. Bonjour à tous. À Calais, au sud Kivu, la situation demeure confuse et intenable. Les survivants hésitent à quitter les lieux du sinistre pour rejoindre le site désigné par les autorités. Les volontaires viennent avec de l'assistance, mais sa distribution pose problème. Un bateau chargé de 8 tonnes de vivres et non-vivres a quitté Bukavu pour Calais ce dimanche matin dans le cadre de l'apostolat du groupe Yakesho Yajuwamungu. Jean Kassami.
Ces bateaux chargés de vivres et non-vivres s'est destiné à Niamoukoubi où les bienfaiteurs ont procédé eux-mêmes à la distribution, un geste que les sinistrés de Niamoukoubi ont apprécié car selon eux, les gros des aides sont tantôt focalisés à Bouchouchou, soit détournés par les comités. Le comité provincial de gestion de la catastrophe avoue son débordement. L'administrateur de Kalehe, Thomas Bakenga, fait partie du comité.
Nous, on avait dit, au niveau de la coordination, nous avons demandé à un partenaire professionnel qui est Audvision, qui était décidé par Ruotia, et Audvision pouvait faire ça professionnellement. Mais on a constaté que il y a une pression, là, je ne sais pas de quelle structure de gens, qui voudraient à ce qu'on donne tout, et maintenant ça s'est fait d'une manière non ordonnée. Maintenant là, les conséquences, si vous comprenez, sur le site, il y en a qui se querellent, qui se battent, de tout et tout.
Une autre difficulté dénoncée par les comités, c'est l'afflux des habitants des milliers non sinistrés sur les sites de distribution. Ainsi, l'administrateur réitère la demande aux sinistrés de se regrouper sur les nouveaux sites pour faciliter l'opération. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province de Kwango, dans l'ouest du pays, la ville de Kenge, son chef-lieu et ses environs sont à ce jour assiégés par des milliers de nouveaux déplacés. Ce sont des habitants des villages Bachongo, Mongata et autres qui ont fui les violences vendredi et samedi, violences créées par les miliciens du groupe armé Mobondo. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango qui alerte indique que ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, surtout que parmi eux figurent ceux qui s'étaient réfugiés à Bachongo comme déplacés déjà en provenance du territoire de Kwamu, Thomas Indombe, fuyant toujours les attaques de ces mêmes assaillants. Symphony Kwengo, premier vice-président de cette structure citoyenne, demande au gouvernement congolais de venir en aide à ces personnes en détresse. Il est joint ce dimanche par Irène Boma.
La situation est toujours tendue entre le pont Kwango et Mbankana. Tous ces rayons-là, vous prenez Mongata, Bachongo, ces rayons-là est pratiquement inhabité pour le moment. Il n'y a plus personne, c'est le désert. Les gens ont fui, les villages ont été abandonnés. Kenge, Mission Lonzo, pont Kwango, c'est plein de déplacés. Vous savez, Madame Irène, la plus grande difficulté que nous avons, Bachongo, c'était le lieu de refuge de tous les déplacés qui venaient de Mongata, qui s'élève pour Munkin. Maintenant, ces déplacés-là, qui étaient là très nombreux, deviennent encore pour la énième fois déplacés. Donc, ils sont en fuite, en débandade, donc la situation humanitaire est très préoccupante. On a maintenant là un nombre important de déplacés qui requiert une intervention sur le plan humanitaire. Donc, ça ne doit pas attendre. Et depuis que nous avions parlé de ces déplacés il y a presque 2 mois, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Et maintenant, ils sont encore en brousse. Je crois que c'est le moment que ces gens bénéficient d'une assistance humanitaire auprès du gouvernement et même des partenaires techniques et financiers.
dans la ville de Beni au Nord Kivu. 45 présumés bandits et autres criminels arrêtés par les forces de sécurité ont été présentés à l'autorité urbaine hier samedi. Ces derniers ont été appréhendés lors des différentes patrouilles et bouclages de la police dans les quartiers des quatre communes de la ville de Beni. Le chargé de communication de la police a indiqué que tous seront déférés devant leur juge naturel. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
C'est un total de 45 présumés criminels, bandits armés et des voleurs de grand-chemin qui sont tombés dans les filets des forces de sécurité de la ville lors des différentes opérations de patrouille et de bouclage des quartiers de la ville de Beni. Les uns arrêtés en flagrance et les autres, dont les détenteurs illégaux d'armes qui sécurisent la ville, ont été cités par ceux qui sont arrêtés, dont les uns sont même auteurs des cas de meurtre et différents cambriolages des domiciles de la population à ville de Beni. L'autorité igoubène à qui ces présumés bandits ont été présentés a indiqué que ce n'est que le début, car les forces de sécurité sont activées afin de traquer tous les bandits qui sécurisent la ville. Pour sa part, le chargé de communication de la police qui les a présentés au maire de la ville a indiqué que tous seront transférés devant leur juge naturel afin qu'ils répondent de leurs actes. Nassan Mourara.
La suite de tous ces arrêtés pour la police et à la justice. Et voilà, ils doivent être déférés devant leur juge naturel. Que la population passe toujours pour vérification et elle doit d'abord passer pour les dépôts de plaintes contre Ngoni. Nous continuerons toujours avec ces opérations pour que la ville de Beni se sente dans la sécurité.
Signalant que la plupart de ces présumés criminels ont été arrêtés dans les quartiers de la commune de Mulekera, les autres dans les quartiers Matongé et Amalepe, des entités urbaines où les cas d'insécurité ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, cette nouvelle un peu plus positive, c'est depuis de nombreuses années que la MONUSCO a fermé la plupart de ses installations dans la province de l'Ituri. C'est le cas notamment de la base d'Aveba dans la chefferie de Walendubindi, territoire d'Irumu, qui n'est plus opérationnelle depuis 2021. Mais avant de quitter la zone, la MONUSCO a formé certains jeunes à divers métiers, ce qui leur permet à ce jour de gagner leur vie. Deux ans après, Radio Okapi a retrouvé l'un des bénéficiaires de ces formations, qui est aujourd'hui réparateur des motos. Jean-Claude Lokidile est allé à sa rencontre. Voici son reportage.
Ah, c'est lui le chef?
Oui, c'est lui que je m'ai tenu pour travailler ici.
La trentaine révolue, peu bavarde, Jean-Marie Marois tient un atelier de fortune où il répare des motos ainsi que de groupes électrogènes. Un métier qu'il a appris grâce à une formation financée par la MONUSCO à travers les casques bleus du contingent bangladais. Deux ans après, il a construit sa maison d'habitation et il scolarise son enfant. Cela dit-il grâce aux revenus de son travail. À ce jour, Jean-Marie Marois encadre sept autres enfants à qui il apprend à réparer les motos. Ici, j'encadre 7 jeunes, mais je ne leur paie rien. Ce que je veux d'abord qu'ils puissent apprendre la matière et puis après, ils pourront travailler seuls. Une grande partie de ce que je gagne ici, c'est pour aider mon enfant. À ses côtés, Douandro Aveluma, un ex-milicien démobilisé qui vite s'était reconverti en enseignant après avoir obtenu son diplôme en mécanique générale. C'est lui qui a formé Jean-Marie et ses collègues après avoir été sollicité par la MONUSCO pour encadrer des jeunes désœuvreux.
Ces petits-là, je les avais recrutés. Ils étaient venus de différents côtés, des Bavi, même les ateliers que vous voyez à Getty, ce sont des enfants que j'ai formés, même à Bavi, même à Bukurungi.
Il s'est dit aussi fier de voir les 14 autres élèves formés tenir leurs propres ateliers de mécanique dont les recettes les aident à subvenir à leurs besoins. Bounia, Jean-Claude Lucky, dit les Radio Capi.
C'est en début de soirée d'hier samedi 13 mai que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Oyo, en République du Congo. Le chef de l'État est en visite officielle de travail de 48 heures à Oyo, ville située à 400 km nord de Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a lui-même fait le déplacement de l'aéroport de Lombo pour accueillir son hôte de marque, Félix Tshisekedi, au pied de l'avion. D'autres précisions avec Alain Hirung.
Après les honneurs militaires et les salutations des personnalités politiques de Kinshasa et de Brazzaville, les deux chefs d'État ont eu quelques minutes d'entretien au salon présidentiel avant de partager le même véhicule pour la résidence temporaire du président Félix Tshisekedi. Son séjour à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Un tête-à-tête est prévu ce dimanche 14 mai entre les deux présidents. Dans l'entourage des deux chefs d'État, personne n'a dévoilé les termes de référence de leur entrevue, indique la presse présidentielle de RDC. Pour rappel, la dernière visite du président Félix Tshisekedi dans cette ville remonte à février 2023. Ce fut dans le cadre d'un entretien bilatéral entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Retour au Nord Kivu pour parler politique. Un mois après la clôture des opérations d'enrôlement des électeurs, aucun programme n'est annoncé pour des territoires de Masisi et Rutshuru. Cette situation a été une fois encore déplorée par les députés provinciaux en congé. Ces derniers l'ont dit lors d'une réunion politique hier samedi à Goma. Ils estiment que cette situation aura des répercussions sur la population des deux entités où l'enrôlement n'avait pas été organisé pour des raisons sécuritaires. Écoutons à ce sujet Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Nous sommes profondément préoccupés par cette situation. Si nous devons aller aux élections en décembre, nous devons nous rassurer qu'avant décembre, la population de Rutshuru, de Masisi et une partie de la population de Nyiragongo ont eu leur carte. Ces populations qui n'ont pas eu accès aux cartes d'électeurs sont aujourd'hui exposées à des tracasseries à l'occasion de contrôles de sécurité. Il est question ici de faire le plaidoyer pour qu'au niveau du service de sécurité, qu'on autorise la validité de ces anciennes cartes jusqu'à ce que ces populations accèdent à de nouvelles cartes. Il est également des détenteurs de cartes aujourd'hui qui s'effacent. Si en un mois déjà, il peut y avoir des cartes qui s'effacent, nous imaginons que jusqu'en décembre, il y aura plusieurs cartes qui seront sans numéro, sans nom, sans visage, et cela pourrait également exposer plusieurs électeurs à ne pas exercer leurs droits politiques. Et vous allez même constater que l'occasion de contrôle, par exemple, d'immigration pour ceux qui veulent voyager, pour ceux qui n'ont pas encore les nouvelles cartes, ça pose un sérieux problème.
En congé technique depuis l'institution de l'état de siège en province, ces députés provinciaux du Nord Kivu plaident aussi pour l'allègement des dispositions qui restreignent leur liberté de mouvement. Les députés provinciaux de Lomami ont enfin adopté ce samedi le calendrier des matières pour la session ordinaire de mars. Cela après un mois et demi, après l'ouverture de la session ordinaire suivie de trois plénières ratées et suite au quorum non atteint. Parmi les matières inscrites, on note l'examen et l'adoption du projet d'édit portant reddition des comptes, exercice 2022, l'examen et adoption de la proposition d'édit portant respect des normes et règlements techniques de la protection génétique des semences de qualité dans la province de Lomami et l'adoption du budget de l'Assemblée provinciale de Lomami, exercice 2024. Signalons que 15 députés provinciaux sur le 26 que compte l'Assemblée provinciale de Lomami ont pris part à cette plénière, contrairement aux plénières précédentes auxquelles 7 députés étaient souvent présents. Une innovation dans la commune de Kadutu à Bukavu dans le domaine économique, il s'agit de la mise en place d'un logiciel pour la collecte des taxes. Cette informatisation du système de collecte des taxes est le résultat d'une formation de 3 jours dispensée aux agents collecteurs et des finances et budget qui travaillent à la commune de Kadutu. Un modèle implémenté par la commission des Sozen Justice et Paix de Bukavu en guise de réponse au désidérata du nouveau bourgmestre qui vise à familiariser ses services financiers à une gestion assistée par l'informatique. Jean-Pierre Mouzinzi revient sur les avantages que son entité compte tirer de ce nouvel outil informatique. Il est au micro de Jean Cassin.
Créer d'abord une base de données des assujettis, suivre de manière directe la collecte, mais aussi permettre une gestion et une planification des dépenses. Quand on a une base de données, donc on connaît les assujettis, on peut planifier un développement ou une dépense quelconque dans le cadre du développement comme dans le cadre social et autres, mais aussi dans le cadre de la bonne gouvernance. On espère en tout cas et on y compte, ceci va nous permettre de bien tracer les recettes et nous donner les moyens du développement de nos quartiers au niveau de la commune de Kadutu. Parce que payer les agents ne suffit pas. Il y a les défis de développement, il y a les défis d'assainissement, il y a les défis sociaux, il y a des cas pour lesquels rapidement il faut intervenir et des fois les moyens manquent. En tout cas, on compte sur cet outil pour que, au fur et à mesure, on contrôle tout correctement et qu'on gagne plus de moyens pour ce genre d'intervention. On est là pour gérer et pour bien gérer et pour satisfaire les désidérata tant que faire c'est seul de la population de Kadutu.
Pour mener à bien sa mission, le bourgmestre de Kadutu déplore le nombre insuffisant des machines à sa disposition. La commune dispose seulement de 10 ordinateurs alors que le besoin est de 50 ordinateurs. Pour finir cette partie du journal, notez que dans la province de la Tchopo, le pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani. Il s'agit du père Léonard Njadou Njate, supérieur provincial des missionnaires comboniens en République démocratique du Congo. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kisangani, Marcel Outembi Tapa, l'a annoncé hier aux agents pastoraux. Quel est le nouvel évêque Qui est le nouvel évêque auxiliaire de Kisangani et quel sera son rôle au sein de cette entité ecclésiastique? Les explications avec Jacques Moukonkole.
Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjaté est né le 2 janvier 1976 à Yanongé, localité située à 55 km de Kisangani en aval du fleuve Congo. Il est entré dans la congrégation des missionnaires comboniens en 1995. Il a étudié la philosophie au philosophe Edith Stein de Kisangani, puis la théologie à l'Institut et Jeune de Mazenod à Kinshasa où il décroche une licence en théologie spirituelle. Il poursuit ses études en théologie à l'Université grégorienne à Rome de 2013 à 2015 et se spécialise en formation vocationnelle. Le futur évêque auxiliaire de Kisangani a été ordonné prêtre le 13 août 2006 à Kisangani. Il a exercé plusieurs fonctions, notamment comme curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Bangui en RCA. De 2015 à 2019, il a été maître du noviciat à Cotonou au Bénin et membre du conseil de la province combonienne du Togo, Ghana et Bénin. De 2020 jusqu'à sa nomination, il est le supérieur provincial des comboniens en République démocratique du Congo. Bien qu'évêque auxiliaire, il est évêque à part entière, a souligné l'archevêque de Kisangani. Monseigneur Marcel Outembi précise par ailleurs qu'un auxiliaire aide un évêque responsable d'un diocèse important et reçoit l'ordination épiscopale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
22 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines dans le centre de la Somalie qui ont affecté au total plus de 460 000 personnes, a déploré ce dimanche l'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA. Les fortes pluies qui se sont abattues en début de semaine ont fait sortir le fleuve Chabelle de son lit, submergeant les routes et les bâtiments de la ville de Beledweyne. Les inondations ont détruit des maisons et saccagé les terres agricoles, emporté le bétail, entraîné la fermeture temporaire des écoles et des centres de santé et endommagé les routes, a expliqué l'agence. Cette catastrophe fait suite à une sécheresse record qui a laissé des millions de Somaliens au bord de la famine, alors que le pays est aussi en proie à une insurrection islamiste depuis des décennies. Pour nombre d'habitants, les inondations sont malheureusement devenues une épreuve familière, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du changement climatique, selon les experts.
L'invité.
La province du Maniema a bénéficié du projet de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels et harcèlement sexuel. Ce projet de près d'une année sera mis en œuvre par Transcultural Psychosocial Organization, TPO, dans 18 zones de santé du Sud Kivu et 2 zones de santé du Maniema, dont Kunda et Kibombo. Nous en parlons dans ce studio avec son superviseur terrain, Étienne Kalimbi Robalura, interrogé par Florence Kizalunga.
Monsieur Étienne Kalimbiro, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dites-nous, vous représentez quelle organisation et vous êtes venu faire quoi ici chez nous au Maniema?
Je suis le superviseur terrain au sein de l'organisation TPO. TPO, ça veut dire Transcultural Psychosocial Organization. Et nous sommes au Maniema dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention et réponse aux abus, exploitation sexuelle et harcèlement sexuel dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale à travers 4 programmes, notamment PMNS, Programme multisectoriel de la santé et nutrition, PDSS, Programme de développement de la santé et du système de santé en RDC et le programme COVID-19.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes parti de quel constant pour venir exécuter ces projets ici? Qu'est-ce qui vous a plus attiré?
Le projet a été financé dans différents contextes, notamment le contexte de la guerre en RDC et aussi le contexte des différents programmes financés au niveau de la RDC et qui, au niveau de la mise en œuvre, il y a eu certains cas d'abus et exploitation sexuelle signalés au sein des différentes communautés de ces programmes. C'est ainsi que ce projet a été financé pour venir contribuer au renforcement du système holistique et intégrer les interventions multisectorielles de prévention et réponse pour le cas EAS.
Quelle sera la stratégie de mise en œuvre de ces projets?
Pour ces projets, on vise quand même à renforcer les connaissances des staffs du système de santé dans les zones d'intervention. Nous allons aussi mobiliser les communautés à travers les différentes actions de prévention et de changement de comportement. Nous allons aussi faire l'engagement du mécanisme de coordination des cas d'abus et exploitation sexuelle, ainsi que la protection et la santé au niveau de toutes les deux provinces, notamment Sud-Kivu et Maniema. Nous allons aussi faire des partenariats stratégiques avec les organisations à base communautaire qui sont présentes dans différentes zones de santé.
Et quels sont les résultats attendus du projet de prévention et réponse à l'exploitation, les abus sexuels et harcèlement sexuel?
Nous voulons que les données et les informations stratégiques de qualité sur les risques EAS et la cartographie des services de prise en charge soient disponibles au sein de la communauté. Nous voulons aussi que les communautés sanitaires concernés par les programmes multisectoriels de la santé nutrition, les programmes de développement du système de santé en RDC et COVID-19 soient informés sur les violences basées sur les genres, les exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel, y compris les services de prise en charge de ces cas cités ci-haut. Nous voulons que les capacités des organisations partenaires ainsi que toutes les parties prenantes, y compris les parties étatiques, soient impliquées dans la mise en œuvre du projet et nous voulons que les victimes d'EAS, abus et exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, soient identifiés et bénéficient d'une prise en charge holistique et la réintégration socio-économique, ainsi que développer les mécanismes de gestion des plaintes au niveau de chaque communauté ou au niveau de toutes les zones d'intervention que le projet va être implémenté.
Et que peut être votre recommandation à la population et aux parties prenantes à ces projets?
Alors, l'appel à ces différentes parties prenantes, c'est de les demander d'accompagner le projet, d'appuyer le projet et qu'on se rassure que les survivants des cas EAS et des violences basées sur le genre accèdent aux services sanitaires et que la communauté aussi puisse s'approprier les mécanismes de gestion des plaintes visant à signaler les cas d'abus et exploitation sexuelle au niveau des communautés. Nous les invitons à la tolérance zéro et nous y arriverons c'est quand les cas d'abus et exploitation sexuelle sont signalés et que les enquêtes soient faites pour que les auteurs soient punis conformément à la loi sur les violences sexuelles et abus exploitation sexuelle dans les pays en RDC.
Monsieur Étienne Kalimbiro, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.